Si vous voulez bien, nous allons commencer. Donc, je vais vous parler des premiers peuplements dont nous n'avons que de traces que linguistiques. Il est généralement admis que les Indo-Aryens, qui n'étaient pas encore Indo, arrivant vers l'Inde, soient passés juste par le sud-ouest ou alors par la barrière montagneuse. On ne sait pas du tout ce qu'ils ont rencontré, mais enfin on peut imaginer. Puisqu'il s'agit du Gandhara, on va imaginer qu'il s'agit de groupes passant la montagne par l'un des nombreux cols qui permettent de passer l'Hindou Kouch à 5000 mètres d'altitude, parfois 4000, le plus bas étant à 3000. C'est ça la partie difficile du terrain. C'est ça la partie difficile du voyage. En effet, autant qu'on peut savoir par les hymnes du Rig Veda ou par l'Avesta, qui ne sont pas des témoignages très fiables parce que ce sont des témoignages mythiques et c'est de la poésie qui héroïse et qui renvoie encore à un stade plus ancien de l'existence des Indo-Aryens, mais en tout cas, il semble bien que nous avions affaire à des petits groupes, probablement pas plus d'une centaine de personnes, avec quelques lourds chariots à quatre roues tirés par des bœufs et poussant devant eux des troupeaux de bœufs dont il ne faut pas imaginer qu'ils ressemblent aux charolais. Ce sont plutôt des bœufs très maigres comme ceux qu'il y a en Inde et qui donc peuvent passer plus facilement la montagne. Les passes sont assez difficiles quand elles ne sont pas aménagées et le problème est surtout le problème de la nourriture pour les hommes, mais aussi pour les bêtes. C'est une des raisons pour laquelle la progression se fait le long des rivières, à la fois parce que l'amont des rivières vous mène au col, mais surtout les côtés des rivières vous fournissent un peu d'herbe et de l'eau pour les hommes et pour les bêtes. La partie difficile de la route s'arrête lorsque l'on arrive ici, dans la région de Kaboul-Begram, qui est encore en altitude, qui est à 1800 mètres, mais où la plaine s'ouvre et où vous trouvez des espaces qui permettent de souffler un peu. Ensuite, la route vers l'Inde par Jalalabad ne pose strictement aucun problème. La grande différence qui a été notée et par les historiens d'Alexandre et par Xuanzang vers 620, c'est l'arrivée à Jalalabad. Pour une raison très simple, c'est que la dénivelée entre Kaboul et Jalalabad est de plus de 700 mètres et qu'on passe d'un climat qui est à peu près celui de la vallée de Chamonix à un climat qui est tropical. Dans la région de Jalalabad, on fait pousser aujourd'hui, sans aucun problème, des orangers. Il y avait des bananiers et il y avait encore au XIXe siècle une jongle de roseaux, ce qui prouve qu'il y avait beaucoup d'eau, avec des tigres et avec des éléphants sauvages. Donc, c'est la raison pour laquelle les voyageurs venant du nord considéraient que c'était à Jalalabad que commencer, enfin un peu avant Ularman, que commencer véritablement l'Inde. Il se trouve que ça correspond également à une frontière linguistique et que ça a correspondu souvent à une frontière politique. Mais la différence de climat, la différence de production est tout à fait étonnante. Et puis ensuite, il n'y a qu'à se laisser aller par des passes très difficiles jusqu'au moment où on arrive au Gandhara. Alors, nous ne savons pas si ces régions étaient peuplées au 3e millénaire ou au 2e millénaire avant notre ère. Si elles étaient peuplées, c'était un peuplement extrêmement faible. C'était des petits groupes de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que des groupes d'une centaine de personnes avec des bœufs qui en plus étaient de tempérament guerrier, qui passaient par là, n'avaient pas beaucoup de beaucoup d'obstacles à redouter, ni beaucoup de guerres. Il n'y avait pas de guerre contre les indigènes, bien que le Rig Veda en parle beaucoup, mais ça a dû être relativement rare, parce que tout simplement, le peuplement a été clairsemé. Et lorsqu'il y avait une opposition, il y avait deux moyens, puisque nous connaissons le résultat des opérations, c'est que les Indos, qui s'appellent Aryens à partir de ce moment-là, sont arrivés en Inde et l'ont peuplé. C'est ou bien ils ont gagné, de toute façon ils ont gagné, mais ou bien en expulsant ou en tuant tous ceux qui s'opposaient à eux, ou bien en les assimilant. Et les deux procédés sont possibles, et c'est ce qui s'est passé pendant trois millénaires, puisque c'est encore le procédé que les Pachtounes ont utilisé, qui arrivant probablement, eux, du sud-est, à une époque assez tardive, puisque dans ces régions-là n'ont été conquises par les Yousufzaï qu'au XVIe siècle, et Peshawar lui-même a été conquis assez tard, vers le XIIIe siècle, et il y avait encore, dans la région de Jalalabad, au XIXe siècle, des gens qui ne parlaient pas pachtou, le tiroï, qui est une langue morte. C'est le procédé qu'ont employé les pachtounes, mais les indo-aryens ont dû le faire aussi. D'abord, la conquête pour s'installer dans les meilleurs pâturages, et les meilleurs pâturages sont le plus bas possible. Cette conquête peut s'accompagner d'assimilation des populations conquises. Il y a des procédés pour cela aussi bien chez les Indiens que chez les Pachtounes. Et puis ceux qui ne veulent pas se soumettre ou s'assimiler n'ont aucune ressource, ou mourir sur place, ou alors remonter les vallées à la recherche de territoires encore vides et où on ne viendra pas trop les embêter. Et c'est ce qui s'est passé dans toute cette région où, jusqu'au XIXe siècle, il y avait des tribus, essentiellement des villages, d'ailleurs plus que des tribus, qui non seulement n'avaient pas été assimilés par les Pachtounes, bien qu'ils aient été en contact avec eux, mais qui avaient gardé leur langue, qui avaient gardé leurs coutumes et qui avaient gardé leur religion. Jusqu'en 1896, dans toute cette région, il y avait des populations qui étaient considérées comme païennes, et qui étaient païennes, c'est-à-dire qu'elles étaient polythéistes, et qui refusaient la conversion à l'islam, la conversion étant généralement collective, mais qui étaient en contact avec l'islam. Et on sait, par exemple, que déjà toute cette région-là, en 1896, était convertie à l'islam. Ça a beaucoup intéressé les Européens parce que, d'une part, c'était en relation avec des récits de la conquête d'Alexandre dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, puisque l'une des interprétations du récit des conquêtes d'Alexandre dans cette région-là, c'est que Alexandre avait rencontré descendants de Dionysos, et que la marque de ces descendants du Dionysos, c'est qu'ils avaient la peau claire, et qu'ils buvaient du vin, et qu'il y avait une colline où il y avait du lierre. Alors, je ne sais pas s'il y a du lierre dans ces régions-là, mais il est clair que la population des Hautes-Vallées, non seulement a la peau claire, non seulement il y a beaucoup de yeux bleus, mais en plus, comme ils se teignent la barbe au henné, ça fait des roues aux yeux bleus, ça fait très européen. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on s'intéressait à eux, mais ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les missionnaires s'intéressaient beaucoup à eux, parce qu'étant païens, ils étaient plus susceptibles d'être convertis que s'ils étaient musulmans. Les musulmans ne sont pas faciles à convertir ni au catholicisme ni au protestantisme. C'est pour cela que l'un des premiers témoignages que nous ayons sur ces populations, c'est celui de ce pasteur fou dont je parlais la semaine passée, M. Leitner, qui n'a pas pu aller là-bas, mais qui a fait venir à Lahore un certain nombre de gens de cette région et a commencé à relever leur langage. S'intéressaient aussi beaucoup les Britanniques, parce que c'était un des rares territoires encore indépendants. Les Britanniques tenaient le Chitral, qui est ici, et s'ils tenaient le Chitral, c'est parce qu'ils craignaient une invasion de Cosaques par cette voie, qui est assez facile. Et il suffit de lire Kipling pour voir combien les Britanniques au XIXe siècle étaient obsédés par cette possible invasion et étaient obsédés par cette région. Et ça commence très tôt. Il y a déjà des renseignements sur ces régions-là obtenus par des informateurs dans le récit qu'Elphinstone a fait de son voyage à Peshawar, qui à l'époque était encore sous domination sikh et n'était pas encore sous domination pashtoun. En 1896, un colonel britannique, qui était en fait un médecin, le colonel Robertson, donc a obtenu de l'India Office l'autorisation d'aller dans un village qui est Kamdesh, qui se trouve à peu près ici, sur la rivière de Bajgal. Et il en a tiré un récit qui s'appelle « The Kafirs of the Hindu Kush », paru en 1896. Il a passé un an sur place, c'était pas un linguiste, et en plus, il a perdu une partie de ses documents en revenant. Il devait traverser une rivière à gué, et les bêtes de somme qui transportaient ses documents ont été emportées par la violence du courant. Mais enfin, c'est un très, très beau livre qui ne porte pas sur la linguistique, mais qui porte sur les coutumes religieuses et sur le nom des dieux des populations qui vivaient dans cette région, essentiellement le village de Kamdesh et la région de Prasun ou Parun, qui était le centre religieux de toutes ces vallées. C'est la base de tout ce que l'on sait sur les kafirs et c'est la seule chose sûre, parce qu'ensuite, il n'y a quasiment plus rien nu de fiable. Pour une raison simple, c'est que quelques mois après le retour de Robertson au Chitral et en Grande-Bretagne, l'émir Abdurrahman, pour prévenir qu'une annexion de ces vallées par les Britanniques, a lancé ses troupes dans toute la région. Et la région a été prise et convertie plus ou moins de force, puisque un certain nombre de villages étaient déjà prêts à passer à l'islam avant, a été converti plus ou moins de force à l'islam et a changé son nom de Kafiristan en nourrissant la terre de la lumière. Mais le nom de Kafir est resté dans la littérature scientifique jusqu'au moment où, à peu près jusqu'au moment où j'ai écrit ma thèse, puisque moi j'ai encore gardé le nom. Mais ensuite, on a fait remarquer que les gens de la région seraient tout à fait vexés si on appelait leur langue des langues kafir, alors qu'ils étaient de très très bons musulmans. Donc, mon collègue américain Strand a pris la défense de l'orgueil de ces populations, et maintenant on appelle ça les langues nouristani, ce qui ne change rien à l'affaire, ni d'ailleurs pour les gens du coin, d'ailleurs, ni même pour les gens de la région qui sont maintenant à Kaboul, vu qu'ils n'ont jamais entendu parler des études qu'on a fait sur leur langue. Enfin, il faut être très correct quand on traite de population. Ces langues, elles ont des noms. Et ces langues, on a commencé à les connaître par les relevés dont je vous ai parlé, du Linguistic Survey of India. Et celui qui a été chargé de faire le volume, Sten Konoff, a tout de suite vu que c'était des langues très, très particulières. L'éditeur général du volume, Grierson, a également vu que c'était des langues très particulières. Et c'est pour cela qu'on les a appelées langues kafir, c'est cette région-là, ou langue d'Arde, c'est cette région-là. Et Grierson a essayé de trouver un nom sanskrit pour ça. Il les a appelées langue pijatcha, qui est un dialecte indien connu par les grammairiens sanskrits. Mais ça n'a jamais marché comme appellation pour une raison simple, c'est que ça ne correspond pas. C'est une appellation unitaire, alors qu'on s'est vite aperçu qu'il y avait deux types de langues. Alors, ce qui complique les choses quand on parle de langue kafir, c'est qu'ici, vous avez une population de 3000 habitants au Kalash, des Kalash, qui sont encore païens, hein, qui sont encore kafirs, et qui sont maintenus comme étant kafirs, et il est interdit de les convertir à l'islam par la loi pakistanaise et auparavant par la loi du Chitral, qui était indépendant, pour une raison très simple. C'est que, d'abord, en tant que païens, ils payent plus d'impôts que les musulmans, ce qui n'était pas négligeable. Maintenant, c'est une source de revenus touristiques. Et depuis 68 en particulier, il y a pas mal de pseudo-ethnographes qui ont fait le voyage du Chitral, théoriquement pour étudier les Kalash, beaucoup pour vivre dans une espèce d'Eldorado où le hashish était très bon marché. Et donc ce type de renseignement est à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais donc les Kalash sont encore kafirs, mais le problème, c'est que leur langue n'est pas une langue kafir. C'est une autre langue, ça va avec le Kouar, le Paloula, le Bashkarik, le Torvali, etc. Alors, on s'est vite aperçu qu'il y avait deux types de langues, et c'est Morgenstern qui a bien marqué la différence, D23, qu'il y avait des langues qui étaient de type indo-arien tout à fait courant, hein, comme le Kalasha, le Gawarbati, le Kovar, le Bashkarik, le Torvali, toute cette vallée qui parle Chinna en plusieurs dialectes, et qui étaient des langues indo-ariennes qui simplement avaient évolué beaucoup plus lentement. Et qui, je vous l'ai dit la semaine passée, une langue comme le Kowar, on croirait un décalque du sanskrit tellement c'est proche. Ces langues sont parfois là depuis très longtemps. Il n'y a pas de raison de penser que le Kowar soit un nouveau venu. Mais par contre, il y a toute raison de penser que le Chinna, qui est la langue de Gilgit et de toutes ces vallées, était en fait la langue de la région de Peshawar et qu'elle a été repoussée le long de l'Indus, repoussant elle-même une langue antérieure qui n'est pas du tout la langue, une langue indo-aryenne, qui est une langue dont le seul équivalent connu, c'est le basque, et encore parce que le basque est une langue ergative et le bourouchaski une langue ergative. Ça ne veut pas dire que le basque et le bourouchaski soient apparentés, mais enfin, ce sont deux langues très différentes des langues indo-aryennes et des langues indo-européennes en général. Il est bien évident que le bourouchaski a été repoussé dans la vallée de Hunza et dans la vallée d'Yassin, ici le dialecte de Vershigvar, par la poussée du Shina, qui lui-même est en train de disparaître sous la double poussée du Pashto et du Punjabi. Donc ça, ce sont des langues de type indo-aryen normal, simplement plus archaïques, et on est convenu de les appeler langues d'Arde, parce que dès Hérodote, et ensuite dans la littérature sanscrite, cette région est considérée comme étant habitée par des populations dites dardes, ce qui ne signifie rien d'autre que sauvages des montagnes. C'est un nom collectif qui ne désigne pas une tribu en particulier, mais qui désigne des montagnards dont la spécialité en particulier était de faire des raids sur le Cachemire, d'où un certain nombre de renseignements que nous avons à ce sujet. On a, chez les historiens d'Alexandre, on a un certain nombre de noms pour les populations de la région du Swat, comme les Asakenoi, les Aspasioi, les Gaurioi, et on voit que ça correspond effectivement à la phonétique des langues d'Arde, bien que maintenant on parle Pashto. Et puis, il y a cet ensemble de langues que Morgenstern a commencé à relever et qui ensuite, il a eu deux successeurs pour le relever, avec des relevés de meilleure qualité, puisque Morgenstern n'a pas pu aller sur place. L'un de ses successeurs est Strand, qui s'est installé à Kamdesh, ici. Et l'autre, c'est Boudrous, qui est encore vivant, qui est de Mainz, et qui est le grand spécialiste des relevés de ces langues, qui a relevé le Waigali, qui a relevé le Prasoun, qui a relevé le Trégami, le Dameli, la plupart de ces langues qui sont en train de mourir. Strand n'a rien publié, Boudrous a peu publié, mais il a trouvé des élèves qui publient ses notes tant qu'il est encore vivant, donc c'est très bien. Et on commence à voir un peu mieux comment sont les choses. Alors, pour vous indiquer quelles sont les caractéristiques de ces langues, pour revenir au peuplement, dans l'atlas que j'ai commis en 72, hein, vous voyez, c'est un gros volume, hein, il y en a même deux, et je le lis moi-même parce que pour quelqu'un d'autre, c'est illisible. Par rapport aux langues d'Arde, il y avait trois traits différents, quatre traits différents selon Morgenstern. Le premier, c'est que dans les langues kafir ou nouristani, la perte de l'aspiration est totale et ancienne. Je reviendrai là-dessus. Ensuite, les langues kafirs, comme les langues iraniennes, conservent en général une distinction entre ancienne et occlusive vélaire palatalisée et labio-vélaire indo-européenne. Cette distinction n'existe plus en sanskrit védique. Ça, je vous expliquerai ce que ça signifie. Le reste est moins important. Le troisième trait, c'est le maintien de la dentale S après U, qui est un trait très archaïque, effectivement, en sanskrit, quand vous avez le nom de la sanskrit, le nom de la souris, dont on sait que c'est mousse, en sanskrit, ça devient moucha. C'est une règle du sanskrit et du langue d'Arde. Ce n'est pas une règle des langues kafirs qui ont gardé le S. Et ensuite, le vocabulaire du kafiri contient un certain nombre de mots inconnus en indo-aryen. Quelques-uns apparaissent aussi en iranien. Alors, sur ces quatre traits, il faut bien voir que nous sommes en linguistique comparée. nous sommes en linguistique comparée, c'est-à-dire que c'est du travail de théorique sur les langues, et ça s'appuie sur un certain nombre de traits communs, mais des traits communs qui touchent très peu de mots. Ça ne veut pas dire que toutes ces langues, les gens se comprenaient les uns les autres. Vous pouvez prendre du Kati de Kamdesh, c'est pas celui de Bargromatal, et c'est encore moins le Kati de cette région qui est tout à fait inconnu. Mais toutes ces langues ont un certain nombre de traits en commun qui sont des innovations et qui ne se trouvent pas ailleurs. Alors, l'une de ces innovations, selon Morgenstern, c'est la perte totale de l'aspiration. Ça, c'est un des traits qui oppose fortement les langues iraniennes et les langues dardes. Les langues iraniennes ont perdu l'opposition entre consonnes aspirées et consonnes non aspirées très tôt. Les langues indo-ariennes conservent encore cette aspiration et cette opposition entre aspirées et non aspirées. C'est un des traits qui sépare très nettement l'indo-européen parlé par les Iraniens de l'indo-européen parlé par les Indiens. Il se trouve que, de ce point de vue-là, les langues nouristani sont du côté iranien. Elles sont du côté iranien, mais il se trouve également qu'elles sont et totalement. Il n'y a pas de mot avec une seule aspirée. Et quand vous faites la phonologie de ces langues, vous ne pouvez pas opposer un mot, une consonne aspirée à une consonne non aspirée. Mais en même temps, on est dans un système de linguistique aréale, on est sur ce que Morgenstern appelait les langues de la frontière indo-iranienne, c'est-à-dire que l'influence des langues iraniennes s'étend au-delà de l'ère où elles étaient parlées et que, par exemple, la perte de l'aspiration se voit occasionnellement dans les langues dardes et dans la Gandhari, dont les langues dardes sont l'héritière directe. Elles sont en tout cas l'héritière directe ou les héritières directes des dialectes de la Gandhari. Dans cette région-là, ça a complètement disparu. Le vocabulaire, c'est sûr qu'il y a quelques mots qui n'existent qu'en iranien, mais ces mots qui n'existent qu'en iranien, c'est parce que les langues indiennes les ont perdus en général. Par contre, il est tout à fait clair, quand on regarde le vocabulaire de très près, que la majeure partie du lexique de ces langues est un lexique identique à celui que l'on trouve donc au sud de l'Hindoukouche, dans les langues indiennes ou indo-ariennes normales. Et cela va plus loin, non seulement ils partagent le même vocabulaire, mais on voit assez bien que ça a été qu'il y a eu des emprunts et une très grosse influence des parlers indo-ariens, peut-être même du sanskrit, sur ces langues. Elles sont plutôt du côté indien de la frontière. On a beaucoup discuté. Le très essentiel, celui qui est décisif et sur lequel personne n'a pu revenir, bien qu'on l'ait tenté, c'est le traitement des labiovélaires et des aspirés. La distinction entre ancienne occlusive vélaire palatalisée et labiovélaire indo-européenne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement vous donner un exemple. Et je vais vous en donner un autre tout à l'heure, mais pour le même mot. Tous ces exemples de mots archaïques sont évidemment des mots qui ne sont pas susceptibles d'être empruntés. C'est en particulier les noms de nombres et des noms de famille et des noms de parties du corps. L'un des exemples le plus clair, c'est celui du prasoun, qui pour 10 dit doutz. Bon, ça vous paraît assez bizarre qu'on puisse s'appliquer là-dessus, mais en iranien, le mot 10 se dit das, et en sanskrit, ça se dit dasha. Dans les langues indo-iraniennes, tout vient de dasha. Et vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de linguistique indo-européenne pour savoir qu'en latin, ça se dit dekem, et en grec, deka. Donc vous avez une correspondance entre ceci, 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 et ceci. Ça peut vous paraître bizarre, je ne vais pas vous expliquer les traitements phonétiques. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vous dire que le latin, quinque correspond le français 5. Et que correspond le grec penta et le sanskrit pancha. Pardon. Alors ça, c'est le type de transformation que les linguistes comparatistes aiment beaucoup. Pour revenir à nos langues kati, c'est une vieille histoire que vous avez des langues qui conservent l'ancien que européen, c'est Dekem et Daka, ce sont les langues de type Satem, et puis d'autres qui, pardon, de type Hekaton, Kentum, et d'autres qui le transforment en une sifflante ou une parasifflante, ce sont les langues de type Shata ou Satem. Donc là, on est sur la barrière des langues qui transforment un que en ce. En iranien, ce que a donné un s. En sanskrit, ça a donné une palatale. Et ici, ça a donné un son qui se prononce tse. Les phonéticiens assurent qu'il est impossible de passer de l'un de ces trois sons à l'autre. C'est-à-dire que nous avons trois traitements différents de l'ancienne vélaire indo-européenne. Alors, on a cinq ou six mots comme ça. Vous avez, par exemple, le fameux mot qui signifie tuer. Vous avez le mot du genou. Il y a la corde d'arc. Il y a le cœur. Il y a la neige. En tout, pas plus d'une dizaine. Et ça suffit pour assurer que nous avons là un groupe de langues qui n'est ni iranien ni indo-arien, mais qui appartient à un troisième groupe de langues et qui témoigne, puisqu'ils sont en haut des vallées tout à fait repoussés, d'une pénétration indo-européenne ou indo-iranienne, exactement, légèrement différente de celle qui était des indo-ariens. Alors, le schéma théorique est celui-ci. Il correspond à peu près à la réalité. Si je pouvais avoir un peu de lumière. Merci. On va vous effacer ça. Donc vous avez à un moment donné, au troisième millénaire, un groupe indo-arien, indo-iranien indivis qui se divise en deux. L'un va donner les langues iraniennes, avec cette particularité que toutes les langues iraniennes, sauf une, correspondent à l'adoption du mazdéisme, c'est-à-dire d'une religion dont le dieu suprême ou l'un des dieux s'appelle Ahura Mazda, et l'autre, à un moment donné, pénètre en Inde, et ça va donner les langues indo-aryennes qui ont cette particularité d'être à époque ancienne, du moins c'est ce qui nous paraît, c'est tout ce qui a subsisté, d'avoir une religion de type védique et d'avoir des brahmanes et des choses de ce genre-là. Et dans ce groupe des indo-aryens, s'est détaché, puisqu'ils sont plus proches des indo-aryens que des iraniens, s'est détaché à un certain moment le groupe des langues kafir, qui est un groupe indépendant, enfin des langues nouristanies. Et c'est ainsi qu'on explique qu'à partir d'un son commun, vous ayez ici S, vous ayez ici TSE, et vous ayez ici CHE. Donc rien que cela prouve qu'il y a eu au moins deux grosses arrivées d'Indo-Européens ou d'Indo-Iraniens, si vous préférez, en Inde. L'une qui est passée et qui ensuite a essaimé sur toute l'Inde et qui pousse encore vers le sud de l'Inde, et l'autre qui était probablement arrivée antérieurement et qui a été bousculée par les nouveaux arrivants, qui a été probablement incorporée en partie par les nouveaux arrivants indo-ariens, et pour le reste qui s'est réfugiée dans les hautes montagnes de ce coin d'Afghanistan. Alors, il reste encore un certain nombre de traces des... Il y a un autre exemple qu'on peut vous donner, mais parce qu'il est amusant, disons, si j'ose dire. Si on prend le mot 19... Ah non... Le mot 19, on sait qu'en sanskrit, ça se dit 9-10. Alors, ceux qui aiment les chiffres vont en avoir dans le séminaire tout à l'heure. Ce type, qui est un type ancien, n'est conservé que dans une seule langue indo-aryenne, qui est le pachaï, qui est la langue ici, dans les vallées où crapahutent les soldats français. Les Indiens ont ensuite préféré une tournure bizarre qui est de type Unavimshati, c'est-à-dire littéralement 20 pas complets, 20 moins 1. Quand vous regardez les langues kafir, enfin les langues nouristanies, il y en a un certain nombre qui ont ce type-là. Par exemple, en Ashkai, vous avez Wesso, qui ne peut venir que de ça. Mais il y en a d'autres, et en particulier le Kati, qui ont cette forme, Nets, qui manifestement vient de Nawa Dasha avec des problèmes de voyelles comme toujours, et qui ont donc gardé non seulement la forme indo-iranienne ancienne, ils l'ont gardée avec une phonétique tout à fait particulière, alors que d'autres langues nouristanies ont adopté le type indo-arien, et tout cela coexiste, ce qui prouve que les deux groupes étaient quand même assez proches par la langue et que les langues nouristanies, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, ne sont pas des langues iraniennes égarés dans un coin d'Afghanistan. Alors, du point de vue de l'histoire, bon, une fois qu'on a établi qu'il y a eu plusieurs vagues de migrants indo-européens, indo-iraniens en Inde, et que l'une de ces vagues parlait une langue légèrement différente et donc appartenait à un groupe légèrement différent, ça ne va pas très loin. C'est déjà un renseignement. On a toujours admis, à cause de ces particularités qui sont partagées par toutes les langues nouristani, qu'elles formaient un groupe, comme le latin, comme l'italien, comme le français, comme l'espagnol ou le portugais forment un groupe, c'est-à-dire qu'elles avaient une origine commune. C'est une chose qui me paraît pas très sûre. On a très peu de raisons, on a très peu de documents qui permettent de savoir si ces langues avaient une origine commune. C'est quelque chose qui est admis dans la littérature. De les avoir regardées d'un peu près, moi je sais que le kati est très dialectalisé, mais qu'on peut effectivement lui trouver des rapports avec l'ashkun, le waigali, qui sont les trois grandes langues d'art. Par contre, le prasun est tellement différent, est tellement bizarre, qu'on peut se demander si ça n'appartient pas à un autre groupe linguistique qui serait très influencé par les langues voisines. Ce qui fait qu'on n'aurait pas un groupe ayant pénétré en Inde avant les Indo-Ariens proprement dit, mais au moins deux groupes. Et ce qui complique les choses pour l'historien des religions, c'est que la vallée de Prasun, qui s'appelle Parun, elle a quatre noms cette vallée, qui s'appelle Parun, Prasun et encore deux autres noms, cette vallée est la plus isolée, la plus difficile d'accès, et qu'on n'y a pas eu accès avant les années 60-70, que Robertson n'y a fait qu'un très court séjour, et que c'est là qu'était le cœur du pays, alors là, kafir, du pays païen. Pour tous les habitants de ces vallées, le centre religieux, c'était la vallée de Prasun, avec de grands temples, dont on ne sait que ce qu'on a dit à Robertson, qui ne parlait pas la langue du pays. Alors on peut essayer, à travers les fossiles qu'il y a dans ces langues, de recréer, d'avoir une idée du système théologique de ces populations. C'est ce que j'ai essayé de faire dans l'article du Journal Asiatique que je vous avais signalé la semaine passée. Mais il faut bien dire que la reconstitution du système religieux nouristani ne va pas très loin. On sait qu'il y avait des temples avec des statues. On a le nom des dieux et avec une hiérarchie divine qui n'est pas du tout celle de l'Iran ni celle de l'Inde, puisque le grand dieu, c'est Yama, qui en Inde est le dieu de la mort, et en Iran est le nom du fondateur de la race humaine. Mais les noms de dieux se retrouvent partout en Inde, avec une phonétique archaïque qui montre qu'ils n'ont pas été empruntés. On sait qu'il y a des prêtres, et ces prêtres, on peut faire l'analogie avec le système des prêtres védiques, mais c'est extrêmement douteux comme résultat, parce que quand vous comparez des renseignements recueillis dans les années 1900, entre 1900 et 1896 et 1960, disons, avec des textes védiques du troisième millénaire, au-delà de certaines analogies fonctionnelles, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller ailleurs. Et puis, vous avez des rites de pureté qui sont d'ailleurs partagés par les populations païennes Kalasha. Vous avez des rites de pureté, vous avez des rites de naissance et surtout un culte des morts très important et très différent du culte indien et des cultes iraniens, puisque les morts glorieux, c'est-à-dire ou bien les grands guerriers, ou bien les riches personnages qui ont donné toute leur richesse en banquets somptueux, ont droit à une statue que l'on dresse sur leur tombe. C'est-à-dire non seulement, à la différence des Indiens, ils ne sont pas brûlés, il n'y a pas de crémation, mais la crémation est assez rare. Enfin, la crémation est assez tardive en Inde. Les premiers védiques, les premiers Indiens védiques n'étaient pas forcément ne brûlaient pas forcément leurs cadavres. Là, on ne les brûle pas, on les enterre, et non seulement on les enterre, mais on dresse sur la tombe des grands personnages, des statues de bois, auxquelles on rend ce que l'on peut appeler des sacrifices chaque année, tant que leur souvenir est conservé. Alors, ce qui fait problème et ce qui amène à beaucoup de confusion, c'est qu'une partie de ces dieux et de ces rites se retrouve chez les Kalashs. Mais les Kalashs, c'est manifestement de type indo-arien pur, avec des apports très récents, par exemple un culte shivaïte très net. Et on a parfois tendance à confondre les cultes Kalasha avec les cultes probablement kafir du Nouristan, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puisque ceux de Kalasha peuvent être très facilement expliqués du point de vue indien, par terre du sanskrit et des textes védiques, ceux du Nouristan ne peuvent pas l'être. Il y a une statue Kalasha, si ça vous amuse, au musée Branly, mais pas le musée du Quai Branly, c'est celui qui a d'abord été établi par Jacques Chirac au musée du Louvre. Dans un coin, vous verrez une statue Kalasha donnée par le gouvernement du Pakistan et qui n'est pas très belle. Il en restait très peu parce que en 1896, les troupes d'Abdurrahman et les habitants, quand ils ont été convertis, ont ramassé toutes les statues de Dieu et les ont brûlées. Alors, il y en a une vingtaine qui ont été ramenées comme butin de guerre au musée de Kaboul, où les talibans les ont détruits et les Italiens ont réussi à les reconstituer. Ce qui fait que la première salle rétablie du musée de Kaboul était consacrée au dieu kafir des Nouristanis. Et donc, on peut encore en avoir. Et comme ça intéresse beaucoup les collectionneurs, et qu'on fait encore de ces statues chez les Kalasha, on trouve assez fréquemment chez les antiquaires des statues en bois très récentes faites pour le commerce des antiquités européens ou américains. Voilà, donc c'est le début du peuplement. Ça se passe aux alentours de 1500 avant notre ère, entre 1500 et 1000 avant notre ère. Et ensuite, nous avons un trou, tout simplement parce que ces populations n'écrivent pas et il n'y a pas d'écriture dans la région avant l'arrivée des Achéménides. Or, nous savons de façon très claire que les Achéménides, à partir de Darius, ont conquis cette région, c'est-à-dire ont conquis les basses vallées, et ont conquis la région dont nous traitons, la région de Peshawar, le Gandhara. Je crois que vous avez donné la bibliographie. Mon collègue Pierre Briand a publié en 1996 une histoire de l'Empire perse de Cyrus à Alexandre, qui est un énorme compendium où vous trouverez tout ce qu'on savait en 1996 sur les Achéménides, ce qui fait que je n'ai pas grand-chose à y ajouter. Malheureusement, Fayard ne s'est pas fatigué pour l'illustration. L'illustration est de mauvaise qualité. Or, il se trouve que les textes achéménides ne disent pas grand-chose sur le Gandhara, mais qu'ils représentent les Gandhariens, et que donc ça méritait quelques meilleures photos. Nous savons que le Gandhara, non seulement faisait partie des possessions achéménides, mais que c'était une possession ayant une individualité certaine, parce que dans les inscriptions de Darius et de Xerxès, et dans les catalogues des armées de Darius et de Xerxès attaquant la Grèce avant Marathon, nous avons des énumérations de peuples. Et à chaque fois qu'il y a un nom pour un peuple, nous pouvons penser non seulement qu'il avait une certaine individualité, mais que dans le système achéménide, il avait une certaine autonomie. L'empire achéménide n'était pas du tout un empire centralisé. Il y avait évidemment à la tête ce que les Grecs appellent le grand roi, mais les provinces avaient gardé une certaine autonomie. Les souverains locaux, dont certains étaient des rois, étaient doublés par des satrapes, mais les lois locales s'appliquaient, les langues locales s'appliquaient. La seule chose qu'on leur demandait, c'était de payer l'impôt, de reconnaître l'autorité suprême du grand roi en payant l'impôt et en fournissant des troupes, comme par exemple pour attaquer la Grèce. Alors nous avons cinq listes de pays et ces listes sont à peu près concordantes avec quelques petites variantes. Mais vous pouvez voir quels sont les peuples qui sont nommés. Vous avez la Bactriane, donc la Bactriane, c'est la région de Bactre. La Sogdiane, c'est la région de Samarcande, qui existait déjà, comme l'ont montré les fouilles de M. Bernard Grenet et Rapin, dans la région de Samarcande. Le Gandhara, qui est nommé avec cette orthographe, d'autres populations plus difficiles à situer, mais qui devaient être dans la région, les Saka et les Satagides, l'Arakosie, qui est la région de Kandahar, et puis le Makran, qui est de temps en temps remplacé, et c'est intéressant, par une autre région qui est l'Indus. Je vais reprendre ma carte. Donc, la Bactriane, c'est ceci. La Sogdiane est plus haut. Le Gandhara est là. Les Saka, on ne sait pas très bien. Il y a beaucoup de choses. Ou bien ils sont dans les Pamirs, ou bien ils sont déjà dans la région des monts Sulaiman. Les Satagides sont probablement dans l'Hindoukouche. Le Makran, c'est cette région où sont passées les troupes, une partie des troupes d'Alexandre lorsqu'il est reparti vers Persépolis. Et puis l'Indus, c'est ceci. Alors, il y a autre chose. Nous avons des images des porteurs de trône. Si vous êtes allé à Persépolis, vous pouvez voir que le trône du grand roi est porté par les peuples soumis. Et là, on a identifié, mais c'est plus ou moins douteux quand même, un certain nombre de peuples. Alors, sont identifiés, ils ne sont pas nommés. il n'y a pas d'étiquette, mais on les a identifiés pour des raisons dans le détail desquelles je n'entrerai pas. Vous avez les Saka, dont j'ai déjà parlé, les Bactriens, les Gandhariens et les Indiens. Vous voyez bien cette différence très claire entre le Gandhara et ce qui est à l'est de l'Indus, les Indiens. Pour les Achéménides, l'Inde commence ici. Ça se voit très bien sur ces images, puisque les Bactriens sont représentés comme des lanciers à pied, avec une tunique et avec une barbe bouclée et des cheveux bouclés. Et le type physique des Indiens est très différent. D'abord, ils sont plus petits et surtout, ils sont vêtus d'un dhoti, qu'on appelait jadis un pagne. Donc, y compris physiquement, ils sont tout à fait différents. Et les Gandhariens portent un bouclier. Le texte de Briand dit un épieu. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça soit une lance. Et ils apportent comme cadeau un bœuf à bosse, c'est-à-dire le bœuf indien. Dans la charte de fondation de Suse, on nous dit que le grand roi a ordonné pour la construction de son palais à tous les peuples soumis de fournir des matériaux ou de fournir des artisans. Alors, parmi ces matériaux, il y a l'or de Sardes et de Bactriane, c'est l'or de l'Oxus, et le bois du Gandhara, preuve que c'était une région boisée. Et effectivement, le Gandhara n'était peut-être pas une région proprement boisée, mais toutes les montagnes, qui aujourd'hui sont pelées et ne sont que du rocher, au XIXe siècle, étaient encore couvertes de superbes arbres. Moi, j'en ai vu encore quelques-uns beaucoup plus haut en altitude. Ça a disparu très, très vite parce que ce bois a été envoyé vers les villes pour les constructions, mais il y avait de superbes déodars de 30 ou 40 mètres de haut. Il y en avait beaucoup. Il est évident que c'est ce bois Yaka que les Gandhariens ont envoyé pour Suse, probablement en le flottant le long de l'Indus. La différence entre Gandhariens et Indiens se revoit dans le récit de la conquête d'Alexandre. Lorsque Alexandre va passer en Inde, il s'arrête à Nicée, qu'on passe à l'entrée de la vallée du Larman, et là, il reçoit des émissaires du Gandhara, qui, le nom n'est pas donné, mais le gouverneur de la ville de Pokélaotis, qu'on a réussi à localiser, qui est Charsada, et le roi Taxila, qui évidemment est le roi de Taxila, Taxila étant ici, vers Islamabad. Ce qui prouve que le roi de Taxila pouvait passer par le Gandhara sans problème pour rencontrer Alexandre. Et que donc, très probablement, ces deux régions faisaient partie de la même entité politique, qu'il n'y avait pas d'hostilité ou de frontière imperméable qui empêcha le roi Taxila de traverser l'Indus, de traverser tout le Gandhara et d'aller rencontrer ensuite Alexandre. Alors Alexandre, on reviendra là-dessus la semaine prochaine, divise ses troupes en deux. Il est obligé de reprendre la ville de Pushkalavati ou Pokélaotis parce que le gouverneur a trahi. Et ensuite, accompagné de Taxil, le texte nous dit qu'il franchit l'Indus et il arriva chez les Indiens. Donc il est tout à fait clair que là, nous avons deux entités différentes, le Gandhara et les Indiens, et que l'Inde commence à l'Indus et va très probablement jusqu'ici. Quant à savoir où se trouvait véritablement le siège du pouvoir, il est possible que le siège du pouvoir, enfin le grand satrape, n'ait été ni à Pushkalavati ni à Taxila, mais qu'il ait été à Bactre. Et vous savez que l'on a récupéré et publié il y a 3 ou 4 ans une partie de la correspondance du satrape de Bactre sous Darius III au moment de l'expédition d'Alexandre. Mais il est clair que les Achéménides ont tenu la région et l'un des résultats de cette conquête, c'est qu'ils y ont implanté une administration écrite qui utilisait l'araméen, d'où va sortir que les Indiens vont utiliser pour créer l'écriture Kharoshthi, qui sera l'écriture de la région pendant 5 siècles, et qui ont, les Achéménides ont aussi implanté un usage limité de la monnaie. C'est sans doute la région de l'Inde qui, la première, a connu la monnaie. Pour le reste, on n'en sait rien. C'est à peu près tout ce qu'on sait de l'histoire du Gandhara sous les Achéménides, mais c'est une histoire qui a duré 2 siècles, qui a eu des conséquences intellectuelles certaines et qui peut expliquer que l'Empire achéménide s'étendant jusqu'à la Méditerranée qu'après Alexandre, alors que les liens avec la Méditerranée sont à peu près coupés, eh bien, Ashoka a fait appel à des artisans soit iraniens, soit grecs, ou iraniens et grecs, ou formés par les iraniens et grecs, pour sculpter les chapiteaux des fameuses colonnes d'Ashoka, qu'on continue à appeler faussement piliers par mauvaise traduction de l'anglais. Mais si vous voulez bien, nous verrons ça la semaine prochaine.